France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h13 en direct sur France Culture à mes côtés, ainsi qu'avec Pierre Aski, fondateur de Rue 89, Marjorie Paillon de France 24, bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, troisième sujet d'actualité, actualité post-élection régionale. Dimanche dernier, les résultats des élections régionales ont montré à la fois un score élevé du Front National, une abstention qui reste elle aussi élevée, et une désaffection plus globale pour la politique. Avec nous ce soir, Stéphane Vincent, directeur de l'association La 27e Région. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Avec vous, on va peut-être évoquer dans cette actualité et reliée à votre projet, la 27e région, ces questions au fond de comment on peut recréer la participation, la collaboration, comment est-ce qu'on peut redonner un sens aussi à la politique au niveau des collectivités territoriales. Commençons par le projet, la 27e région, au-delà du nom qui est un peu anachronique aujourd'hui, quand il y a 13 régions, ça pourrait être la 14e.
Oui, on ne changera pas de nom.
On ne changerait pas de nom. Pourquoi consistait le projet à l'origine?
En fait, c'est né d'une discussion, d'un pari avec le président de l'Association des régions de France, qui s'appelait Alain Rousset. Et l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il ne nous manquerait pas dans le paysage un lieu un peu laboratoire pour repenser la façon de conduire des politiques publiques. Et le postulat de l'époque, c'était de dire, au fond, la façon dont on construit des politiques publiques dans les régions, mais on pourrait le dire dans les villes, on pourrait le dire à l'échelle des gouvernements, travaille à partir de matrices intellectuelles qui datent d'un demi-siècle, et voire plus. Et donc, est-ce qu'on peut résoudre des problèmes avec la complexité des enjeux d'aujourd'hui, avec des cultures, je pense à ce qu'on appelait avant le New Public Management, mais qui est encore enseigné dans les écoles d'administration. On n'a pas proposé une nouvelle façon de concevoir des politiques publiques. Et peut-être aussi, c'est une des raisons de l'échec actuel des politiques publiques. On travaille avec des méthodes du passé pour résoudre des problèmes.
Ça, c'est le diagnostic. Il faut sortir du plan, il faut sortir de la 4e République. Qu'est-ce que vous proposez?
Nous, le sentiment... alors, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais peut-être la nouveauté, c'est qu'on prend enfin conscience que, au fond, peut-être que les politiques fonctionnent mieux lorsqu'on y associe leurs bénéficiaires. Peut-être que la façon de concevoir des politiques publiques fonctionne mieux.
C'est pas nouveau non plus.
C'est pas nouveau non plus, mais peut-être que... Alors, c'est effectivement, la démocratie participative a beaucoup travaillé... mais au fond, quand les décisions étaient déjà prises, là, l'enjeu, c'est... quand on construit une nouvelle politique éducative,
donc
quand on
construit un nouveau,
absolument, c'est la co-conception. Et donc peut-être que entre le moment où le proviseur ou l'éducation nationale réfléchit à un nouveau projet d'éducation, peut-être qu'on peut dès cet instant associer des élèves, des professeurs, leurs parents, et être beaucoup plus tôt dans le processus, dans une démarche de co-conception. Aujourd'hui, la co-conception, elle vient à la fin, quand tout est déjà décidé.
Sur ce gros sujet, un gros livre de 495 pages que vous publiez, donc c'est ça l'actualité aussi, la 27e région Design des politiques publiques, le titre Chantier ouvert au public, un ouvrage collectif auquel vous avez participé bien sûr, orchestré, dirigé par Pauline Scherrer, c'est publié ce mois-ci à la Documentation française. Sur cette question, Marjorie Paillon.
J'imagine que vous avez beaucoup regardé les projets numériques quand ils existaient justement des candidats aux élections régionales. Est-ce que finalement aujourd'hui l'idée ce serait pas de se dire qu'il faudrait un chief data officer, un CDO, dans son acronyme, dans chaque région ou dans chaque territoire, pour réussir en effet non seulement à gagner plus en efficience dans la gestion vraiment au quotidien de ces territoires, mais aussi essayer de comprendre comment marier cette fois-ci enfin de façon concrète numérique et action publique.
Oui, et en même temps, je pense qu'il suffira pas de mettre plus de numérique dans les politiques publiques. C'est-à-dire que c'est une transformation plus radicale encore. C'est aussi
et
les
plus
cultures.
Globales. Plus globales. Le numérique est un outil pour cette transformation.
Absolument. Et donc, ce sont toutes les cultures qui arrivent avec le numérique. Il nous faut appliquer l'empowerment dont vous avez parlé tout à l'heure, la culture de la coopération.
Empowerment, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux gens.
Redonner du pouvoir aux gens. La culture de la coopération qui, contre toute attente, fait défaut dans le secteur public. Les acteurs publics ont extrêmement de mal à coopérer.
On peut aussi dire que la contre-attente, ça serait que ça marche.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a une attente toujours plus forte que ces politiques publiques soient plus efficaces. Et aujourd'hui, effectivement, donc c'est pas simplement remettre un peu de numérique, parce qu'il y a même des grands projets numériques qui ratent dans le secteur public, mais c'est changer toute la culture et le fonctionnement de ces organisations.
Est-ce que l'idée, c'est justement de redonner foi aussi en l'action publique pour redonner foi en la politique, ce dont on en semble cruellement souffrir en ce moment?
Absolument. Je pense qu'il y a un enjeu d'efficacité, mais il y a un enjeu de désir aussi. C'est-à-dire qu'il faut probablement donner envie aux gens de s'engager. Ce n'est pas juste innover dans les services ou avoir que ça coûte moins cher. Il faut sans doute qu'il y ait suscité une adhésion et une envie beaucoup plus forte chez les gens de s'y engager.
Pierre Aski.
Lors de la discussion de la dernière loi d'Axel Lemaire, il y a eu une consultation assez large et la ministre a tenu à inclure dans son projet de loi des amendements qui venaient de cette consultation de citoyens, ou plus exactement de gens concernés ou de groupes, etc. Est-ce que pour vous, c'est une voie à suivre, par exemple ?
C'est une voie à suivre, sauf si vous regardez le texte final, très peu des propositions faites par les citoyens ont été retenues. Donc c'est bien qu'il ne suffit pas de placer des outils technologiques dans ces politiques publiques, mais c'est un changement radical. C'est-à-dire, il aurait fallu peut-être que les gens qui décidaient du texte final accordent plus de confiance et de crédit aux propositions qui étaient faites par les citoyens. Donc ce n'est pas juste mettre de la technique dans la machine à fabriquer des politiques publiques, c'est vraiment recréer de la confiance entre les gouvernants et les citoyens, et dans les deux sens.
Quand on lit votre ouvrage, Chantier ouvert au public, la 27e région, ouvrage collectif dirigé par Pauline Scherrer, La Documentation française, on s'aperçoit au fond que les chercheurs sont très associés à, non seulement à ce livre, mais à ces projets, et notamment ce qu'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire le chercheur qui lui-même se met à agir, ce qu'on appelle aussi, non pas un think tank, mais un think do tank, c'est-à-dire qu'on fait, on ne se contente pas de penser. Quelle est la place que vous pensez que les intellectuels, les chercheurs peuvent jouer dans cette reconfiguration du rapport entre les citoyens et les collectivités territoriales?
Je pense qu'elle est absolument centrale. Simplement, jusqu'à présent, on ne leur a pas fait assez confiance. Les chercheurs ont été mis un peu sur le strapontin de l'action publique. L'enjeu, c'est de leur permettre d'être dans la machine et de la pirater avec la bienveillance de la machine. Mais c'est de leur donner un crédit beaucoup plus grand.
Les intellectuels hackers.
Absolument. Notre ministre de la Justice, par exemple, derrière les attentats de Charlie Hebdo, ça s'est peu su, mais a envoyé des chercheurs dans les prisons pour étudier en profondeur, un peu sous le radar, les phénomènes de radicalisation. Je pense qu'il y a donc bien, il y a de l'espoir aussi. Ça veut dire qu'on a des acteurs publics qui commencent à comprendre qu'il faut faire confiance aux sciences humaines et sociales. Il faut peut-être retourner du côté de l'ethnologie, repartir de l'intérieur et pas rester à la surface des choses. Il faut peut-être arrêter de faire du marketing public aussi. Il faut peut-être rentrer essayer d'être plus près des réalités des gens. Donc c'est vrai que nous, on pense qu'il faut, dans ce secteur public qui est très occupé, colonisé par les sciences de gestion, par les juristes, etc. Il faut peut-être les faire dialoguer avec des gens qui viennent des sciences humaines et sociales. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des gens aussi qui viennent de la création, du design. Pour redonner du désir, il faut faire venir des gens comme ça.
Et pour terminer, il y a des exemples étrangers qui fonctionnent, qu'on pourrait prendre comme modèle en Angleterre, au Danemark, au Mexique, par exemple.
Oui, un peu partout. C'est en train de surgir de façon spontanée un peu partout. Le gouvernement danois, par exemple, a depuis 15 ans un laboratoire d'innovation qui s'appelle le MindLab et qui sert au gouvernement danois à repenser par les usages, en co-conception avec ses usagers, toutes ces grandes politiques. Bloomberg, en ce moment,
aux États-Unis,
l'ex-maire de New York, via sa fondation, soutient 14 villes américaines. Il a mis 50 millions de dollars pour aider ces villes à s'équiper de chercheurs, de gens venant du design
et de la sociologie. Avec des projets notamment à Chicago.
Absolument, dans une quinzaine de villes américaines. Donc là, il y a un mouvement qui est en train de partir au sud, au nord, un peu partout.
Un exemple aussi en Angleterre, pour terminer.
Oui, le Cameron s'est équipé récemment d'un truc assez discret qui s'appelle le Policy Lab, qui est dirigé par une jeune designer et qui remet du design et des sciences sociales dans les politiques britanniques.
Stéphane Vincent, directeur de l'association La 27e Région, je renvoie à votre livre dans l'actualité ce soir de Soft Power en direct sur France Culture, Chantier ouvert au public, c'est édité par La 27e Région, sous-titré aussi Design des politiques publiques, j'aime bien l'expression. Vous l'aimez bien cette expression, vous?
Oui,
vous l'utilisez beaucoup.
Elle nous plaît, c'est un oxymore qui nous plaît beaucoup.
Design, voilà, des politiques publiques. Un ouvrage dirigé par Pauline Scherrer aux éditions La Documentation française. Ce soir dans Soft Power jusqu'à 20h, mon invité sera Jean-Christophe Tortora, le PDG de La Tribune, pour parler notamment des nouveaux modèles économiques de la presse. Sujet de Soft Power ce soir. Vous pouvez réagir d'ores et déjà sur ce thème ou poser vos questions à nos invités sur les réseaux sociaux au hashtag Soft Power.